rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut Dautuy, le micro de notre émission de rencontres régulières avec les évêques de notre région, toutes les semaines. Pendant tout ce mois de novembre, nous avons été accompagnés par Mgr Fonlieu. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Vous êtes évêque de Rodez. Et pendant ce mois de novembre, nous avons abordé des grandes questions. Nous sommes allés de l'autre côté du monde et puis nous avons abordé des sujets aussi profonds que le dialogue avec la société. Et nous allons, pour finir ce cycle de rencontres avec vous, revenir sur votre territoire en Aveyron et revenir sur ce synode que vous avez mené, ce long synode, longue concertation dont nous avons fait une émission entière, un mois entier avec vous sur le sujet il y a quelque temps déjà. Et donc nous sommes maintenant deux ans après la fermeture de ce synode, après les conclusions que vous avez rendues, les décisions que vous avez prises à l'occasion de ce synode. Et deux ans après, voilà, dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Moi ou l'Église ?
Vous déjà.
Écoutez, je crois, moi, que le synode n'est pas oublié. Hein, deux ans, ça fait déjà du temps de passer. On a clôturé le synode au moins en juin 2017. Mais ce qui me frappe, c'est que je pense qu'il a dynamisé un certain nombre de chrétiens. C'est-à-dire qu'il a été une expérience pour beaucoup de laïcs. Pour des prêtres aussi, mais je pense surtout pour beaucoup de laïcs.
L'expérience de l'Église synodale, justement.
Voilà, une expérience vécue, hein, de rencontres, d'échanges, de réflexions et de maturation, d'orientation, de maturation de décision, quoi. Voilà. Et donc, on est plutôt dans une période où on essaie maintenant de mettre en œuvre cette synodalité. Hein. Une des phrases que j'avais dites le jour de la promulgation des actes, c'était de dire un synode est fini, mais pas la synodalité. Et c'est une phrase qui, je crois, a été retenue. En tout cas, c'est une phrase que nous attachons à faire vivre. Hein. C'est-à-dire que la synodalité, c'est pas un moment particulier, hein, même si un synode est un moment tout à fait particulier,
oui,
pour une église locale.
Un début, une fin.
C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut déployer dans le temps et inscrire dans notre manière de vivre, dans les structures qui sont les nôtres, dans l'organisation un peu de la vie de notre Église, quoi. Alors comment ça se déploie depuis ? Il y a d'abord un premier élément qui a été la constitution d'un conseil pastoral diocésain. Hein, donc un conseil à grande majorité de laïcs qui se retrouve une fois par trimestre.
Et ça c'est une des mesures, une des décisions prises,
oui,
qui a été appliquée.
C'est à la fois une demande du droit canon, hein, de faire exister un conseil pastoral dans l'Église. C'est pas une nouveauté, mais c'est vrai qu'on l'a relancé et que je l'ai relancé. J'ai attendu que le synode soit terminé pour le relancer. Et l'intérêt, c'est que les membres de ce conseil aujourd'hui sont des membres qui ont été très marqués par l'expérience du synode et qui du coup savent d'emblée un peu ce qu'ils ont à vivre dans un lieu comme celui-là, quoi. Donc je trouve que là j'ai la chance d'avoir un lieu de réflexion et d'échange avec des baptisés en grande majorité laïcs qui est tout à fait nourri de l'expérience du synode et qui a en particulier à exercer cette vigilance pour nous demander ce que nous en faisons un peu dans le quotidien de notre vie ecclésiale, quoi.
D'accord, donc ça c'est une des mesures qui a fonctionné. Un autre exemple peut-être dont vous êtes content, heureux, qui fonctionne bien ?
Alors après, je pense qu'un autre exemple sur lequel on travaille, je ne sais pas si, je ne dirais pas que ça fonctionne bien ou mal, mais il y a d'une part ce que j'ai cherché à promouvoir autour des fraternités de prêtres.
Hein. Oui.
Je rappelle aux auditeurs, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais j'ai nommé l'ensemble des prêtres dans des équipes par doyenné, et donc chaque équipe sur un doyenné, il y a 8 doyennés dans le diocèse, chaque équipe par doyenné ayant la charge de l'ensemble des paroisses du doyenné, 3, 4, 5, 6 paroisses, ça dépend des doyennés, et chaque prêtre étant ensuite référent plus particulièrement de telle ou telle paroisse. Hein. C'est une manière d'essayer d'évoluer par rapport à la responsabilité particulière d'un curé pour une paroisse, mais de faire que ça soit davantage une équipe de prêtres qui porte la charge pastorale de l'ensemble de ces paroisses, même si chacun est repéré comme le référent et donc d'une certaine manière comme le curé de telle ou telle de ces paroisses, quand même, voilà. Et donc c'est quelque chose qui est en train de s'élaborer. Hein, ça veut pas dire qu'ils vivent ensemble, ça veut pas dire que, mais ça veut dire qu'ils sont un peu appelés à se retrouver pour partager, pour travailler ensemble, pour prier ensemble, pour définir un petit peu des orientations ou des évolutions dans leur manière d'animer la vie pastorale. Et que là-dedans, on voit bien que à la fois il y a des choses heureuses, il y a des choses qui sont plus difficiles liées au tempérament des uns ou des autres, hein, ou à la disponibilité des uns ou des autres. Donc oui, c'est une expérience, je dirais, qui demande du temps, qui demande d'accepter de se frotter un peu plus les uns aux autres, peut-être qu'ils ne le faisaient précédemment, mais qui me paraît en tout cas quelque chose d'important pour les prêtres, et puis d'important aussi pour les laïcs. Quand j'ai souhaité ça, je souhaitais aussi que ça puisse permettre à l'ensemble des chrétiens de ne pas se situer simplement vis-à-vis d'un prêtre en disant « c'est lui mon curé ».
Oui.
Mais de comprendre qu'ils sont plus, qu'ils ont plus à la fois à s'organiser de plus en plus entre eux pour un certain nombre d'aspects de la vie paroissiale, et en même temps de savoir qu'ils ont en relation et en répondant pas simplement un prêtre unique, mais qu'ils ont plusieurs prêtres qui peuvent intervenir de différentes manières par rapport
et,
à eux.
Et qui peuvent réfléchir ensemble à une situation donnée, à un territoire donné. Et que...
Voilà, et puis qui peuvent être complémentaires. C'est par exemple un prêtre qui accompagne les équipes qui préparent au baptême sur plusieurs paroisses de même doyenné. Vous voyez, il y a des possibilités
comme
ça. Parce
qu'il a davantage cette compétence ou ce charisme.
Donc c'est à la fois un appel, vous voyez, du côté des baptisés pour ne pas regarder simplement le prêtre ou mon curé, hein, et pour porter en eux-mêmes un certain nombre de responsabilités, et une invitation pour les prêtres à creuser cette expérience-là, d'éprouver un peu la manière dont ils vivent ensemble leur ministère. Quoi.
D'accord.
Et toujours dans le domaine de la fraternité, on essaie aussi d'avancer dans une proposition pour faire exister des fraternités missionnaires de proximité, c'est-à-dire des petites équipes de laïcs qui s'organisent comme ils le souhaitent et à la manière dont ils souhaitent et avec le rythme qu'ils souhaitent pour se retrouver entre eux, pour partager un minimum d'éléments de ce qu'ils vivent et des nouvelles de ce qui se vit autour d'eux, pour accueillir ensemble la parole de Dieu, pour prier, pour avoir quelques nouvelles aussi de la vie du diocèse, et pour, à partir de là, bah, être renvoyés un peu moins seuls dans leur vie humaine et dans leur vie croyante.
Mais si ce format est très très libre, comment est-ce que vous l'impulsez alors?
Alors on l'impulse,
comment faire un modèle?
On a créé un petit livret, un petit kit de démarrage, si vous voulez, avec des fiches qui proposent à ceux qui veulent démarrer de quelques éléments de partage, quelques pistes pour vivre cela. Et puis c'est un livret qui s'enrichit progressivement de pistes nouvelles qui peuvent être créées au fil du temps. Par exemple, on est en train de clôturer, ou on a clôturé plutôt le mois missionnaire mondial au mois d'octobre. Eh bien, il y a deux ou trois fiches qui ont été réalisées pour aider ces équipes-là à réfléchir sur cette dimension de la mission et la manière dont ils la vivent.
D'accord. Voilà. Donc, c'est pas seulement des fiches pratiques pour démarrer, mais c'est aussi, vous avez le souci de continuer à les nourrir et leur donner des thèmes de réflexion.
Voilà. Mais en même temps, c'est pas un mouvement, il n'y a pas un programme d'année, C'est plutôt une proposition d'un lieu un peu gratuit où les chrétiens sont invités à se retrouver avec d'autres, à découvrir que notre foi est une foi qui nous rassemble et à trouver des manières de soutenir les uns par rapport aux autres.
D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a parmi les décrets et les décisions du synode d'autres qui ont un peu plus de mal à se réaliser ou un démarrage un peu plus lent ou...
Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont beaucoup de mal à se réaliser. Il y a des... on a travaillé aussi sur les maisons de vie. Il y a un certain nombre de paroisses qui ont travaillé à des réhabilitations immobilières pour faire exister un peu, non plus un presbytère, non plus une maison paroissiale, mais en parlant de maison de vie, c'est-à-dire faire exister un lieu qui soit un lieu de vie, d'animation, de carrefour, de rencontre, de partage pour des chrétiens ou pour des hommes qui veulent aussi rencontrer la communauté paroissiale, pour des personnes qui veulent rencontrer la communauté paroissiale. Alors ça se fait pas dans toutes les paroisses de la même manière, mais il y a une véritable dynamique par rapport à ça.
D'accord.
Je crois qu'on creuse beaucoup aussi, et là, alors ça demande du temps, mais c'est, je crois, un aspect très important, c'est la dimension de la diaconie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et peut-être aussi à cause un peu des questions difficiles que traverse l'Église, c'est sans doute une prise de conscience que notre responsabilité première, c'est peut-être de manifester qu'on répond à la mission que nous confie le Christ quand on sert les plus pauvres, quoi. Hein, et pas simplement quand on va les servir d'une manière un peu supérieure, mais quand on va les rencontrer, quand on va leur laisser la place et quand on va leur permettre d'être avec d'autres vraiment partie prenante de la vie ecclésiale, quoi.
Et là, c'est dans la mise en route de chaque chrétien du diocèse, dans cette notion de diaconie qui est peut-être plus longue ou...
Alors, on essaie de faire exister un service diocésain de la diaconie,
bien sûr, hein,
alors,
oui,
qui intègre des organismes comme
plusieurs mouvements, associations,
le Secours catholique, comme Saint-Vincent de Paul, comme la pastorale des migrants, comme des lieux donc, qui sont plus attentifs et plus investis par rapport à des précarité que peuvent connaître les uns ou les autres. Oui. Mais justement, faire exister un service diocésain, nous interpeller plus largement, oui, pour faire que là où nous sommes, quiconque, nous soyons attentifs à laisser une place à ceux qu'on aurait facilement tendance à ignorer. Quoi. Voilà. Alors ça, je crois que c'est un travail de longue haleine, oui, mais c'est un travail qui est ressorti fortement de la part dans la réflexion synodale, qui est porté de manière solide par quelques acteurs dans la vie de notre Église, et c'est un domaine sur lequel je crois qu'on a beaucoup avancé. Mais ça touche aux questions de précarité. La réalité des migrants est une réalité vis-à-vis de laquelle s'investissent un certain nombre de chrétiens d'une manière assez admirable. Moi, je suis très, très impressionné du nombre de chrétiens qui s'engagent à accueillir, à soutenir par des moyens, à accompagner, à marcher avec des personnes. Hein. Bon, et ça, c'est une question difficile que rencontre notre société et où l'Église n'est pas en retard, mais où elle marche vraiment avec. Hein. Voilà. Et puis un dernier point sur lequel on avance aussi, alors d'une manière même un peu étonnante, c'est autour de... Il y avait une forte demande au niveau de la formation. Et pour le moment, cette demande, elle s'est concrétisée autour d'une proposition qui s'appelle Théophile, qui se vit donc à raison de 5 rendez-vous, 5 journées, 5 samedis proposés dans l'année. Le premier se vivant en un lieu unique à Rodez, mais ensuite se déclinant en 4 lieux différents du diocèse, en même temps avec des techniques de vidéoconférence qui fait qu'on a la même parole et puis qu'on peut être en relation entre les différents lieux, et avec un certain nombre d'acteurs et d'intervenants assez divers. C'est une formation qui ne se veut pas d'abord élitiste ou exigeante, mais qui est vraiment une manière de retraverser avec tous ceux qui le souhaitent les éléments fondamentaux de notre foi, de la vie de l'Église et de l'intelligence que nous pouvons avoir de cette foi-là, quoi. Et ce qui est frappant, c'est le nombre de participants. L'an dernier, il y avait un petit peu plus de... Il y a 280 personnes qui s'étaient inscrites. Cette année, il y avait pratiquement une centaine de plus. Hein. Donc voilà, je trouve que là, il y a un noyau très consistant de gens qui sont heureux de se retrouver, qui se nourrissent profondément d'éléments consistants de notre vie ecclésiale et qui ça crée un peu comme une espèce de terreau sur lequel notre Église, je crois, continue à s'enraciner aujourd'hui.
C'est très encourageant. J'invite les auditeurs, si le sujet les intéresse, à réécouter une émission comme Manuel Pella a faite il y a 6 mois, je crois, à Vivante Église, dédiée à cette formation Théophile avec plusieurs acteurs du diocèse. Et effectivement, ça l'a beaucoup marqué. C'est une formule...
C'est en tout cas une nouveauté un peu qui a été souhaitée, qui a été réfléchie, mais dont le succès numérique au moins nous dit quelque chose aujourd'hui, quoi. Et à nous d'être attentifs pour voir ce que ça fera surgir.
Merci beaucoup, Monseigneur. Merci de nous avoir accompagnés pendant tout ce mois de novembre.
Merci à tous. Au revoir.
Au revoir.
Rencontre avec nos évêques.